On peut changer de boulot, on peut changer de femme, mais on ne peut pas changer de club de football. Ce n'est pas de moi, hein, rassurez-vous, c'est une formule extraite du film de Ken Loach, Looking for Eric, consacré à un fan de Manchester United en général et d'Eric Cantona en particulier. Cette formule résume le lien qui peut unir certains supporters à leur club, un engagement qu'on a l'habitude d'attribuer aux Anglais et que l'écrivain Nick Hornby raconte formidablement bien dans son roman Carton jaune, consacré à son amour pour Arsenal, et qu'on peut retrouver en France, dans un printemps 76, par exemple, le livre du journaliste de l'Équipe Vincent Duluc, où il fait le récit de sa jeunesse rythmée lui aussi par les vers de Saint-Étienne. Et cette relation, on la retrouve chez les ultras, ces supporters fanatiques qui vont, à partir de ce week-end de reprise de la Ligue 1 de football, reprendre le chemin des stades de Marseille, Paris, Lyon, Lille, Nantes, Reims ou Caen. Sauf qu'au XXIe siècle, les clubs connaissent une transformation profonde. Fini l'équipe constituée de joueurs repérés dans les petites structures locales du département, qu'on a attiré dans le club phare de la région, détenu par le patron et principal employeur de l'agglomération. La Ligue 1 est progressivement en train de glisser aux mains de fonds d'investissement, qataris, chinois, américains ou de milliardaires russes. Les équipes recrutent sur tous les continents et essaient quand même de conserver un ou deux joueurs du cru pour afficher des racines locales. Enfin, le public de Marseille se rend maintenant à l'Orange Vélodrome, celui d'Arsenal à l'Emirates Stadium, des enceintes sportives qui adoptent dorénavant des noms de marques en devenant des lieux de spectacle et de consommation pour y voir des matchs programmés souvent aux heures fixées par la télévision. Alors, face à cette évolution économique du sport, qui touche d'ailleurs peut-être la France un peu plus tard que d'autres pays, quel est le lien entre le supporter et le club de sa ville? Entre un fan attaché à son équipe et un joueur qui a enchaîné les clubs et sera peut-être reparti au prochain mercato, que signifie être supporter aujourd'hui à l'heure du sport business?
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour en débattre, sont avec nous en studio aujourd'hui Michael Tapiro, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous avez fondé, vous présidez la Sports Management School, c'est ça, et une agence de marketing sportif également qui s'appelle
Au-delà du sport.
D'accord. En face de vous, Vincent Chute-Maisance, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez le collectif Red Star Bauer, qui réunit des supporters du Red Star, donc le club de football de Saint-Ouen au nord de Paris, et un fan club un peu mécontent.
Un peu mécontent, ouais.
Pourquoi?
Puisque là, comme il y a 3 ans, on a accédé à la seconde division. Et comme il y a 3 ans, on ne peut jouer dans le stade Bauer. Et donc, on est contraint, comme il y a 3 ans, de recevoir nos matchs à Beauvais, à 80 km d'ici.
D'accord. Et donc, vous êtes un groupe de supporters qui luttait pour que les matchs reviennent à Saint-Ouen.
C'est ça.
Et enfin, Sébastien Louis, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en duplex depuis le Luxembourg, vous êtes enseignant à l'École européenne de Luxembourg, historien et sociologue et spécialisé sur les supporters radicaux en Europe et en Afrique du Nord, c'est ça?
Tout à fait, je viens juste de publier un ouvrage justement de référence, Ultra, les autres protagonistes du football, et je reviens d'Indonésie où j'ai travaillé sur la question du supporterisme en Indonésie.
Merci. Et enfin, nous entendrons Thierry Hubach, qui est responsable communication du Racing Club de Strasbourg-Alsace, qui avait travaillé précédemment à Lorient et à Monaco. Alors, une petite question pour commencer. Pour Vincent Chute-Maisance, pour vous, la réponse va être assez facile. Quel est votre club de cœur? Depuis quand? Et quand êtes-vous allé au stade pour la dernière fois? Michael Tapiro.
Alors, dans quel sport, Didier?
Vous choisissez, on a parlé beaucoup de football.
Ouais, on a parlé de foot. Je suis parisien, premier stade dans lequel j'y suis allé, c'était le Parc des Princes, je suis supporter du Paris Saint-Germain au foot, j'ai été ancien joueur du Stade Français Rugby, donc je suis supporter du Stade Français Rugby. Mais encore une fois, je crois que je suis supporter français d'abord et avant tout. Je me souviens de l'époque de l'OM dans les années 90 où j'étais OM à Donf et j'avais 9 ans, 76, pendant la finale contre le Bayern avec la SSE Saint-Etienne et j'étais tout en vert.
Voilà. D'accord. Enfin, quand même les clubs qui gagnent, quoi, ou en tout cas qui étaient dans
ceux qui ressortent un peu du lot dans une problématique très française. Parce que faut se rappeler qu'en 76, avant d'avoir un club en finale, à l'époque c'était la coupe d'Europe des clubs champions, c'était pas la Champions League. C'était un miracle absolu, hein, mis à part le Stade de Reims dans les années 50, on n'avait pas vu de club français ressortir. Donc on était tous verts, on était tous Saint-Etienne, on savait pas que c'était une ville industrielle, mais on les supportait vraiment à fond.
D'ailleurs, c'était d'ailleurs les seuls joueurs battus qui descendaient les Champs-Élysées après une défaite.
Ouais, on pourra en parler. Ça.
Alors, vous, Vincent Chutet-Maison, ça a toujours été le Red Star, toujours, c'est ça?
Toujours, ouais. Donc moi, c'est mon grand-père qui m'y a emmené, en fait. Donc en 1994, j'avais 8 ans. Donc moi, j'ai grandi, en fait, dans le nord de Paris. Donc c'était le club qui était à proximité. Et moi, mon lien de supporter avec ce club, et c'est ce que je dis souvent, il va de pair avec le stade, puisque jusqu'en 98, on a évolué donc, au Stade Bauer en 2e division. Et ensuite, pendant 4 ans, on a déjà été délocalisé à la Courneuve. Et pendant ces 4 ans, j'ai pas assisté à un seul match.
Ah ouais.
Donc à l'époque, c'était pas, j'avais 13, 14, 15 ans, donc c'était pas spécialement un choix ou une volonté. Mais le fait est que c'était plus loin, c'était plus compliqué d'y accéder, donc j'allais pas voir les matchs de mon équipe à cette époque-là. Et je suis revenu donc au Stade Bauer quand l'équipe est revenue en 2002. Donc,
j'imagine que si vous n'alliez pas à la Courneuve, vous avez encore moins envie d'aller à Beauvais. Sébastien Louis, vous avez un club de cœur, vous?
Bien entendu, c'est l'Olympique de Marseille depuis le 18 avril 1990.
Pourquoi cette date?
Tout simplement, Benfica-Marseille, un but de la main de Vata qui élimine l'OM de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Et ce but qui est resté dans les annales comme la main de Dieu ou la main du diable.
C'est celle-ci ou c'est celle de Maradona?
Alors, c'est un peu le même geste et l'arbitre belge n'avait pas vu cette main. Et donc, suite à cette injustice, je suis devenu supporter de l'Olympique de Marseille, qui est toujours mon club de cœur.
Donc, il faut une injustice pour que ça vous touche au plus profond de votre cœur, c'est ça?
Peut-être, un petit peu comme Ken Loach, j'avoue. Il y a un côté très romantique dans le football et... ces injustices et ces défaites forgent les supporters, car les victoires, c'est facile de suivre un club dans la victoire, mais j'ai commencé à suivre l'OM et mon premier abonnement c'était en D2. Et d'ailleurs, je me suis rendu à l'époque à Bauer pour un Red Star OM en 94-95. And don't be afraid of the dark. At the end of the star there's a golden sky and the sweet silver sun.
Love. You'll Never Walk Alone, un titre écrit en 1945 pour une comédie musicale qui s'appelait Carousel. Mais en fait, cette chanson est devenue un standard, repris ici par Gene Vincent, et surtout l'hymne de plusieurs équipes de football, notamment de Liverpool.
C'est l'histoire d'une ville qui ne vit que pour le football et qui, au même moment, est devenue ivre de bonheur. Pour ses habitants, les gars de l'équipe, c'est comme leurs enfants. La coupe est désormais la leur.
Alors nous, la coupe, on l'a gagnée ! On l'a gagnée tout ça !
Organisé comme l'arrivée d'un chef d'État, scénarisé comme celle d'une rockstar.
Grand merde, deuxième fois, putain.
Quoi donc ?
À Monaco qui a battu l'OM.
Attends, on s'en fout.
Voici les premières images de Neymar sur le sol français. À la descente de son jet privé, le Brésilien va être escorté jusqu'à ce qu'on arrive dans la capitale.
Samedi 25 février. Pour une fois, les galets de saucisses ne font pas recette aux abords du Roudourou. Certes, Guingamp ne joue qu'à 17h, mais surtout, l'événement est ailleurs, partout ailleurs. L'En Avant concrétise ce jour-là son projet Calonne, cœur en breton, qui va permettre à ses supporters de devenir actionnaires du club.
Bon, malheureusement, il n'y a pas qu'à Ligue 1 dans la vie. Hein. Il y a aussi le football.
Et l'euphorie du mondial, à peine retombée, retour aux affaires courantes pour les adeptes du ballon rond avec la reprise du championnat de Ligue 1 ce week-end et retour dans les stades pour des milliers de supporters pour soutenir leur équipe de leur ville, de leur département, de leur région, bref, de leur territoire. Mais on sait, on le racontait tout à l'heure, les clubs ont bien changé. Alors qu'est-ce qui donne aujourd'hui envie d'aller au stade? C'est la question qu'on a envie d'aborder. Sébastien Louis, vous qui avez énormément étudié et continuez à étudier les supporters et notamment les ultras, qu'est-ce qui leur donne aujourd'hui encore envie d'aller au stade?
La passion pour leur club, le fait de se retrouver dans un groupe de supporters et d'avoir des idées, de les mettre en application. Tout cela dans un seul but uniquement qui n'est pas pécunier, c'est-à-dire on fait tout pour soutenir son club. Et il y a un match qui se joue dans les tribunes, d'où le titre de mon ouvrage, Ultra, les autres protagonistes du football, car on désigne souvent les supporters par le terme du 12e homme. Et effectivement, ils sont le 12e homme, car on a besoin de ces supporters. Et on l'a vu d'ailleurs au PSG, le PSG qui a été racheté par le Qatar. Il y a eu le plan Le Prou qui a éloigné pendant plus de 5 ans les ultras du Parc des Princes. Et il n'y avait plus d'ambiance. Et donc, c'était un véritable problème. Et il y a eu des négociations au haut niveau entre le président du PSG, le président qatari et les supporters. Et donc, on a vu le retour du collectif, de la constitution d'un groupe de supporters, le collectif Ultra Paris. Et donc, les ultras sont revenus au Parc des Princes. Donc, ça démontre à quel point on a besoin d'une ambiance. On ne veut pas d'une ambiance à l'anglaise. Parce qu'on parle souvent de l'ambiance des stades anglais. Et en fait, il n'y a pas d'ambiance en Angleterre. C'est comme dans un cinéma ou dans un théâtre. Uniquement sur les buts, il y a très peu de chants. Les gens sont assis. Il y a des règlements internes très stricts, on ne peut pas amener de banderoles, on ne peut pas amener de tambours. Bref, c'est assez triste. Et là, je reviens d'Indonésie et je peux vous assurer que le spectacle dans les tribunes indonésiennes n'est pas. Enfin, le spectacle dans les stades indonésiens n'est pas sur le terrain, mais il est essentiellement dans les tribunes où il y a une passion pour le football excessive. J'ai vu un match de première division, Arema Persija, dimanche. Il y avait, le stade faisait 35 000 personnes. Le match a débuté avec 22 minutes de retard car il y avait 5 000 supporters dehors qu'ils ont finalement laissé rentrer au bord de la pelouse. Et il n'y a pas eu d'incident. Ça a été très bien géré. Donc, on a une passion incroyable et excessive pour le football. Donc le véritable enjeu à l'heure actuelle, et c'est le cas, je le vois aussi en Allemagne, dans des matchs de 3e division, quand Dresde évolue en 3e division, qu'ils avaient 22 000 spectateurs de moyenne, les gens venaient essentiellement pour l'ambiance, pas pour voir un mauvais match de 3e division. Souvent, le match est parfois secondaire. On le voit avec la diffusion des téléphones portables, les gens filment les tribunes. De plus en plus sur YouTube, vous avez des animations, des scénographies, les ambiances. Et c'est tout ça, en fait. Les gens, ils viennent au stade pour vivre une expérience, parce qu'on voit
on
pas
bien
demander, forcément.
On va demander justement, Vincent, Chute et Maison, vous, avec le Red Star, vous jouez pas en Ligue 1, vous jouez dans des divisions inférieures depuis plusieurs années, le club en tout cas. Qu'est-ce qui aujourd'hui donne encore envie à un supporter comme vous d'aller au stade?
On parlait tout à l'heure de la jeunesse, justement, c'est à ce moment-là que se forge un peu son identité, notamment de supporter. Plus on grandit, plus il y a une certaine fidélité envers son club. Et nous, c'est vrai que, notamment au Red Star, on a accompagné le renouveau du club. En fait, le club était retombé en division d'honneur, donc l'équivalent de la 6e division française. Donc à l'époque où il y avait plus grand monde au stade, et c'est vrai que nous on a aussi contribué à ce que le club remonte, parce qu'on était on n'était pas nombreux, mais en tout cas on a commencé à organiser un soutien actif autour du club, et on a vraiment aujourd'hui c'est ce qui donne envie, c'est voilà, c'est de voir aussi jusqu'où on peut aller tout en gardant nos valeurs, et ça c'est le vrai défi d'aujourd'hui, c'est ça.
C'était le fameux 12e homme, comme le disait Sébastien Louis.
C'est une expression qui est tout à fait plausible. Et c'est vrai que c'est pas anodin quand on parle de 12e homme. Être supporter, moi je pense que c'est être un véritable acteur à part entière autour du match, autour du club. Et c'est une expression qui est tout à fait bien sentie pour moi.
Mais alors, quand on arrive, vous parliez de division d'honneur, quand on arrive au 4e, 5e niveau, 6e niveau. Qu'est-ce qui donne encore envie d'aller au stade? On voit bien qu'en plus, vous deviez être une poignée. Il ne devait pas y avoir forcément des affiches formidables et un niveau de jeu extraordinaire. Qu'est-ce qui donne encore envie d'aller au stade?
Dans les déplacements, il se faisait plutôt à Versailles, à Saint-Gratien, qu'à Lens ou à Nancy. Donc c'est sûr que... Mais c'est quelque part aussi ce qui fait l'essence collective du supporter. C'est-à-dire qu'on a commencé à se retrouver. On avait tous 18-20 ans à l'époque. Et on a commencé à se retrouver ensemble. Et c'est aussi l'aventure d'une bande de copains, entre guillemets, de se dire, allez, on redonne un second souffle. On accompagne le club. Et je pense que c'est l'expérience collective. C'est ça qui crée quelque chose de fort et qui renforce la passion de supporter.
Alors, pour donner juste quelques chiffres, l'équipe avait lancé une vaste enquête il y a 2 ans à laquelle avaient répondu 22 000 personnes, parmi lesquelles il y en avait les 3/4 qui se déclaraient fans d'un seul club très attachés à ce club. On leur avait demandé de donner une note à leur attachement entre 0 et 10, ils donnaient 8. Et en expliquant que c'était généralement le club de leur enfance, 40% le reliaient même à une tradition familiale et 30% c'était le propre choix, leur choix personnel. Est-ce que ça donne pas ce côté un peu, Michael Tapiro, c'est à la vie, à la mort avec un club?
C'est à la vie, à la mort. Je me souviens d'une anecdote en Espagne, en Liga. Il y avait un abonné du FC Séville, je crois, qui était abonné depuis très longtemps avec son frère. Son frère a décédé. Il a conservé son siège de socios. Et lors de tous les matchs à la maison, il arrivait avec l'urne funéraire de son frère. Donc ça symbolise un peu comment on peut être accroché viscéralement à un club, à un blason. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très très fort, et il n'est pas si évident pour nous en France de côtoyer ce genre de sentiment, parce que lorsqu'on regarde toutes les capitales européennes ou même tous les clubs européens, vous avez souvent 2 clubs de première division dans la même ville.
Voire à Londres, c'est 6 clubs.
6 clubs à Londres. Mais vous allez à Milan, c'est simple, ou on est Inter ou on est Milan AC, mais on ne peut pas être entre les deux, et on est forcément contre l'autre. Et on retrouve ça systématiquement à Madrid, à Séville, etc. Donc, paradoxalement, à Paris, on n'a qu'un seul club de Ligue 1. Nul doute qu'on aurait des problématiques de supporters si on avait eu ces 2 équipes, comme on avait à l'époque avec le Matra Racing dans les années 80.
Ou longtemps avant le Paris FC.
Ou le Paris FC des années 60, etc. Voilà, donc souvent, la problématique du supporter ou de l'ultra dans une ville, c'est de choisir un club, mais surtout de ne pas choisir l'autre. Voilà. Et ceci dit, ça crée énormément, ça génère énormément de choses positives, et notamment pour l'économie des clubs aujourd'hui, ça permet dans le modèle économique d'avoir des gens qui consomment énormément dans les stades.
Sébastien Louis, vous qui avez pas mal étudié le football italien, notamment, vous confirmez ces villes où il y a comme ça plusieurs clubs où il faut faire un choix?
Tout à fait, on se construit souvent en opposition par rapport aux autres. On fête les défaites de l'autre d'une manière symbolique, c'est-à-dire on organise parfois des enterrements, on construit des cercueils en carton ou en bois, on défile dans la ville, dans les quartiers qui sont supposés être laziali et romanisti à Rome. Et donc effectivement, non, ça existe et c'est très fort, ces sentiments, c'est anti. L'année dernière, il y a eu un comédien italien qui s'est produit dans différentes villes avant des matchs en arborant le maillot de la Juve. Et la Juve est le club le plus aimé en Italie, mais aussi le plus détesté. Et il a été agressé à plusieurs reprises, et pas par des ultras, hein, par des tifosi d'un certain âge qui lui disaient de partir gentiment et par la suite qui l'ont même agressé physiquement. Et donc ça montre bien à quel point justement cette opposition par rapport à l'autre, elle est importante. Particulièrement en Italie, l'Italie c'est le pays du campanilisme, hein, c'est un pays très jeune qui a été uni il y a uniquement 157 ans. Et donc en Italie, les derbies sont extrêmement ressentis. J'ai été voir un match de 3e division cette année, Livorno-Pisa, et il y avait un hélicoptère de la police, il y avait 1200 policiers et stewards mobilisés pour 15 000 spectateurs.
Est-ce qu'il n'y a pas un rattachement aussi politique derrière le choix du club ?
Pas forcément. Alors ça, c'est souvent un cliché. On a souvent dit que les ultras de la Roma, ils étaient de gauche et ceux de la Lazio étaient de droite. Et c'est plus compliqué et plus complexe. Le côté politique, par exemple, à Livorno. Livorno est connu comme étant la ville la plus à gauche en Italie, car tout simplement, le Parti communiste italien, le PCI, a été fondé en 1921 à Livourne. Et les ultras, effectivement, arborent des drapeaux de l'Union soviétique, des drapeaux de Cuba, du Venezuela, de la Palestine, parfois de la Corée du Nord. Ils chantent des chants politiques, mais il y a également un folklore derrière, en opposition par rapport aux autres, voilà, par rapport aux ultras des autres équipes qui sont étiquetées à droite. Et donc, c'est une sorte de jeu. Quand on parle avec la plupart d'entre eux, ils ont une certaine méconnaissance de la politique. Alors pas tous, hein, il y en a qui sont véritablement politisés, mais on suit une tendance.
D'accord. Vincent, Chuté Maisons, le Red Star, c'est pas aussi, quand vous dites on veut rester au Stade Bauer, tout ça, c'est Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est un bastion de gauche dans le nord de Paris, ça veut dire que c'est aussi un attachement quelque part à une fidélité à cette ville et à ses valeurs et à son idéologie.
Bah c'est surtout, enfin quand on parle du Stade Bauer, c'est plus au-delà de la ville, c'est vraiment attaché à ce lieu de vie en fait. C'est, on peut parler justement de valeurs. C'est vrai que nous au Red Star, on va pas se cacher, on est clairement une tribune antiraciste. Mais c'est surtout voilà, au niveau du Stade Bauer, c'est un lieu de vie. Enfin, moi, je connais très peu de lieux dans Paris et sa région qui réunissent 3000 personnes, où tout le monde se croise et où il n'y a pas de, notamment, sectorisation. Parce que dans les stades modernes, suivant le prix que vous payez, vous vous retrouvez derrière les buts, vous vous retrouvez au milieu, qu'avec les gens avec lesquels vous avez payé le même prix. Au Stade Bauer, vraiment, tout le monde se croise. Donc, il y a une espèce d'essence, il y a une espèce de lieu de vie qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et nous, c'est aussi pour ça que c'est important de défendre ce stade.
Nickel Tapiro, c'est intéressant ça. L'enceinte sportive n'est plus ce lieu de brassage qu'on a pu connaître par le passé, de brassage avec une mixité de toutes les classes sociales.
Alors, ça l'est toujours, mais très compartimenté. Mais surtout, avant même d'avoir le rôle du brassage pour un club de football dans une localité, c'est d'abord et avant tout un lieu à exploiter. On le voit bien, la problématique des grands championnats, c'est de posséder son stade. En France, on est très en retard par rapport à cela. On le voit de plus en plus, qu'il y a maintenant des beaux amphithéotiques qui confient le stade pendant assez longtemps à des clubs, notamment à l'OM, là où quelque part Franck McCourt commence à respirer un peu parce qu'il a bien compris que voilà, pour faire son cirque, ils font son barnum. Et son barnum a exploité de fond en comble. C'est-à-dire que on le voit aussi dans, il y a d'autres exemples dans le rugby, par exemple, vous avez Jackie Lorenzetti du Racing qui a construit un stade à Nanterre. Ce stade-là, c'est un stade d'entertainment, c'est un stade qui est beaucoup plus utilisé par les concerts et par les spectacles que par le rugby ou éventuellement par le foot si un jour un club de foot irait jouer là-bas. C'est intéressant de voir que cette enceinte-là est devenue une enceinte mixte entre le sport et l'entertainment. Et donc forcément, il va falloir la rentabiliser. La rentabiliser à partir du moment où vous la pilotez. Prenez un exemple, vous prenez un club qui ne possède pas son stade et dont la municipalité a les clés, il va être très très difficile pour lui d'organiser par exemple une soirée partenaire parce qu'il va falloir demander la permission à la mairie, parce que ce sera pas forcément un créneau libre, etc. etc. Donc oui, le stade, c'est devenu un modèle, dans le modèle économique, c'est devenu un élément essentiel. Alors qu'avant, c'était un lieu de partage, c'était un lieu de fraternité, c'était un lieu magique. Hein. Moi, j'ai encore le souvenir du Parc des Princes en 75, un après-midi contre Lens, c'était mon premier match. Je m'en rappellerai toujours, c'était le Saint des Saints. Il y a une lumière particulière, il y a une ambiance particulière. On ne parlait pas encore d'ultra, mais on parlait de gens qui étaient passionnés par le Paris Saint-Germain.
Ces garçons-là, rien à voir avec une équipe de foot ou de rugby, hein, c'est le premier titre du groupe Radio Elvis, extrait de leur prochain album attendu pour la rentrée.
C'était un été ordinaire, ces garçons-là étaient gentils, trouvaient toujours les mots pour plaire, moi je me cache pour écrire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Les filles avaient ce goût amer, j'en avais peur jusqu'à vomir. Ces garçons-là savaient y faire, moi je n'avais pas mon mot à dire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Les couples levaient sans prévenir, ces garçons-là étaient virils, et la violence à divertir, avec ce garçon si facile. Tiens-le, 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 tiens-le. Et leurs motos ont fait rugir la terreur à mes yeux rougir. Ces garçons-là m'ont fait courir. Je n'avais qu'une idée en tête, toucher la fille et puis partir. Montrer quel garçon j'allais être, je voulais juste m'en sortir. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Jamais eu d'oreille, et mes parents n'ont jamais su que l'enfance y était perdue. Là-bas, 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 là-bas. Le visage de ces garçons-là. Et puis je n'oublierai jamais, j'étais ce garçon ordinaire. J'étais ce garçon ordinaire, avec son histoire à écrire. Promis, je ne vous oublierai pas, je suis ce garçon ordinaire. Promis, je ne vous oublierai pas. N'oublierai pas, je suis ce garçon ordinaire, ce garçon-là, ce garçon-là, ce garçon-là.
Ces garçons-là, par Radio Elvis, un titre choisi par Elsa Béranger qui en charge la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assisté d'Alexandre Chenet et d'Antoine Gomez. Elle a été préparée par Nathan Gallo et Gaëtan Lévy. On revient sur notre débat consacré donc aux supporters de sport, de clubs, de football, mais pas que. Et pour commencer, Thierry Hubac, responsable du Racing Club de Strasbourg-Alsace, à qui Nathan Gallo a demandé si les clubs n'essayaient pas maintenant, comme on dit dans les boutiques, de faire vivre une expérience client aux supporters.
Oui, alors les supporters n'aiment pas beaucoup hein, qu'on les appelle des clients. Ce sont des gens qui font beaucoup de sacrifices pour venir au match. Mais oui, enfin, l'expérience, moi je dirais plutôt l'expérience spectateur, c'est important. En France notamment, on est dans une problématique de faire venir les gens longtemps avant au stade pour pouvoir justement faire, entre guillemets, consommer, passer un bon moment. C'est pas, à Strasbourg, on n'a pas cette problématique puisque de toute façon, de manière naturelle, les gens viennent deux heures et demie avant le match. Ils partagent des bons moments, ils mangent une tarte flambée, ils partagent une bière. Il y a beaucoup d'animations qui sont autour du stade. C'est une façon très conviviale et festive de vivre le football, un petit peu sur le modèle de la Bundesliga voisine en Allemagne. Donc je pense que oui, effectivement, il y a une façon différente d'essayer de faire vivre le football en France, un petit peu sur le modèle de ce qui s'est passé dans l'industrie du cinéma. Il y a quelques années, les cinémas n'étaient pas forcément très confortables. Ensuite, ils ont commencé à monter des salles avec des fauteuils formidables, des grands écrans, du son magnifique, pop-corn. Et le chiffre de fréquentation des cinémas a augmenté en flèche. C'est un petit peu la même chose pour le foot. Le match de foot, c'est un peu le clou du spectacle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'avant-match et il y a l'après-match aussi. Et pendant le match, c'est pas seulement non plus le match en lui-même, mais il y a un tas d'animations qui sont aujourd'hui proposées par les écrans géants, des phénomènes d'interactivité qui peuvent aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'ultra-connectivité, proposer des expériences différentes autour d'un match de football. Il reste bien évidemment de la place pour les puristes. J'en ai fait longtemps partie aussi. Hein. Je suis d'une génération qui a connu le match de foot qui durait 90 minutes debout derrière le but. Ça existe encore. Mais il y a aussi d'autres façons aujourd'hui de vivre le football de haut niveau. Après, ce qu'il y a autour de l'industrie du football, c'est nécessaire. Il ne faut pas non plus être romantique à l'excès. Le monde est en perpétuelle évolution et le football ne doit pas rester quelque chose de figé dans le temps. Il doit aussi suivre l'évolution du monde et de la société. Aujourd'hui, le fait qu'on programme des matchs à des heures qui peuvent paraître un peu curieuses, mais qui sont adaptées au marché asiatique, oui, effectivement, c'est destiné à promouvoir l'image de la Ligue 1 à l'international, à générer des revenus qui permettront d'attirer des joueurs de très très haut niveau, qui contribueront aussi à améliorer le spectacle, à attirer des gens au stade et à les rendre heureux aussi.
Le débat du midi. Didier Siamour sur France Inter.
Les rendre heureux en les amusant, les faisant consommer avant, pendant, après le match. C'est la perception du supporter en 2018, Sébastien Louis ?
Malheureusement, on assiste à ce que Christian Bromberger a défini la disneylandisation des supporters. Effectivement, on a cette idée de vouloir les attirer pour qu'ils consomment. On parle de faire revenir les familles dans les stades, c'est un impératif. Pourquoi les familles ? Ben, tout simplement 4 personnes, hein, la famille standard, avec 2 enfants qui achètent les maillots, qui dépensent de l'argent. Donc effectivement, ça attire les gens. C'est intéressant le modèle économique de Strasbourg, car effectivement, Strasbourg est une ville où la culture allemande est proche et est forte. Et que ce soit aussi bien les ultras comme les Ultra Boy 90 que le club, ils ont bien compris qu'il fallait s'inspirer du modèle allemand, car c'est le modèle qui réussit le mieux. Il suffit de regarder les 5 grands championnats européens. C'est celui qui a la meilleure affluence. Si je ne me trompe pas, ça doit être 44 000 spectateurs par match de Bundesliga en moyenne. Alors que il faut savoir que les 5 grands championnats, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, ont toutes augmenté leur moyenne de spectateurs sur les 20 dernières années, à l'exception de l'Italie. L'Italie est le seul grand championnat qui a perdu 25% de spectateurs en 20 ans. Même la France en a gagné. Et donc voilà, les clubs se sont transformés parce qu'on n'est plus dans le football. Les supporters ou les ultras parlent de football moderne. Moi, je préfère parler d'industrialisation du football. Et il faudrait par exemple évoquer le cas de Sochaux. Sochaux, c'est un club qui est en train de mourir à petit feu en France. C'est un club historique. Et c'est un club où il y a une multipropriété. Il y a un propriétaire chinois qui a racheté le club, Monsieur Li, avec de l'argent un petit peu douteux. Il y a même eu une enquête au sujet de cet argent. Et cette année, un nouvel investisseur est arrivé, un Espagnol, Baskonia, qui a repris le club. Et il y a une véritable logique de spéculation derrière cette multipropriété. Et les supporters sont en train de paniquer. D'ailleurs, il y a une partie des supporters, notamment la tribune Nord Sochaux, qui a décidé de boycotter les matchs de son équipe. Et c'est extrêmement dur pour eux, mais c'était pour adresser un signal clair. Parce que ce club historique, qui est le premier club pro en France, est en train de mourir à petit feu. Mais c'est la même chose en Autriche. On a eu le Red Bull Salzbourg. Donc Red Bull a acheté une série de clubs, que ce soit à New York, que ce soit à Leipzig, que ce soit en Autriche. Et donc, ils visent véritablement à transformer leur marque. Et certains même vont jusqu'à changer les couleurs du club. C'était le cas à Cardiff, où un investisseur de Malaisie a changé les couleurs du club du bleu et blanc au rouge, parce que le rouge porte bonheur en Malaisie. Voilà. On est dans ce modèle économique, et les supporters, et notamment les ultras, s'opposent à ce modèle. En fait, ils se revendiquent un petit peu comme des syndicalistes de leur club de football. Alors, ils ne s'opposent pas à la modernisation, hein, parce que, bien entendu, on est en 2018, ils vivent avec leur temps, mais ils veulent qu'on respecte les traditions, les supporters. Car les supporters, c'est pas uniquement le 12e homme, c'est eux qui font vivre le club de football. Et le cas de Strasbourg est le meilleur exemple. Strasbourg avait la meilleure affluence en National et en National 2. Le club avait coulé, mais les supporters étaient restés fidèles.
Alors, aller acheter un club de football, en plus, c'est pas très très cher. Ce matin, un papier dans les Échos qui fait un bilan un peu et une perspective de la Ligue 1 rappelait que l'OM avait été cédé pour 45 à 50 millions d'euros et que la vente des Girondins devrait se faire autour de 100 millions d'euros. On voit que c'est pas des chiffres très élevés par rapport aux investisseurs qui arrivent. Michael Tapiro, est-ce que le supporter est devenu un client ?
Alors, il y a de plus en plus de clients au stade. C'est pas pour cela que les supporters, les purs et durs, les ultras sont devenus des clients. D'ailleurs, on le voit bien, le prix des places augmente considérablement, sauf pour les ultras. Donc quelque part, et je parle sous le contrôle de Vincent, pas simplement pour le Red Star, mais aussi pour d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain ou l'OM. Donc quelque part, on a la conscience que cette population bien précise, qui met l'ambiance, qui est présente pendant les déplacements, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental, et qui donne, je dirais, l'essence du club, qui porte haut et clair l'étendard du club, cette population-là, il faut à tout prix qu'elle ne soit pas trop influencée par les conséquences marketing des championnats européens et notamment celui de Ligue 1. Parce que il faut se mettre à l'évidence, aujourd'hui, on doit parler d'expérience client. Aujourd'hui, on voit le prix des places et on se rend compte que ça ne touche que des entreprises qui souvent travaillent en business to business et qui vont inviter des partenaires. On se rend compte que le fan a complètement changé. En plaisantant dans l'ascenseur avec Vincent, on disait que oui, effectivement, aujourd'hui dans les stades, on voit des gens qui sont fans parce qu'ils savent que l'équipe va gagner parce qu'elle est beaucoup plus forte. Alors que le vrai supporter, c'est celui qui a justement la crainte. Voilà, non, mais voilà, qui a la crainte. Quand on va à l'extérieur, en général, c'est pas toujours pour gagner. Donc quelque part, il vit l'histoire du club. Il y a une sorte de mélange d'adrénaline, d'ocytocine, de choses qui font que on va se retrouver incarné dans le club. Attention, soyons clairs. Le modèle économique des clubs professionnels a complètement changé. Le fait d'avoir, encore une fois, des tickets qui coûtent plus cher, ça participe, avec les droits télévisés, à acheter des meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs, ça participe aussi à aller vers la Champions League. Et quand on va en Champions League, effectivement, qu'on soit, je dirais, le supporter lambda ou l'ultra, eh ben, c'est toujours un plaisir de recevoir le Bayern de Munich au Parc des Princes ou d'aller en déplacement à Barcelone. Donc, vous voyez, tout le monde s'y retrouve, mais l'air de rien, pour que tout le monde s'y retrouve, il faut que le modèle économique fonctionne. Il y a encore peu de temps, quand vous faisiez le bilan de tous les clubs de Ligue 1, je crois qu'il y en avait 1 sur 20 qui était positif en termes de chiffres.
De rentabilité.
En termes de rentabilité. Et ça interpelle énormément, parce qu'aujourd'hui, on arrive vers un équilibre économique qui est absolument fort.
Alors, c'est intéressant le parallèle avec la salle de cinéma également, parce que le joueur de football ou de rugby, aujourd'hui, dans les clubs de rugby aussi, on voit qu'il vient de tous les horizons. Est-ce que c'est pas un peu aujourd'hui la nouvelle star du cinéma? Et est-ce qu'il devient pas un peu plus inaccessible pour le supporter qui pouvait peut-être s'identifier un peu plus? Vincent Chutey-Maisons. Alors, au Red Star, vous n'avez pas forcément des grandes stars. Mmh. Mais en tout cas, comment vous analysez ça?
Nous, c'est vrai que, et notamment au Red Star, nous, on s'identifie plus à l'équipe, plus à un collectif qu'à un joueur en particulier. Et d'ailleurs, nous, c'est vrai que les joueurs qu'on met souvent en avant, c'est vraiment les joueurs un peu les plus besogneux, ceux qui rechignent pas la tâche. Et nous on met vraiment en avant. Et je pense que c'est un parallèle aussi avec la vie de supporter. C'est l'entité, c'est l'institution, c'est l'expérience collective que nous on trouve qu'on trouve plaisante, quoi.
Plus, vous voulez plus dire que l'équipe est plus importante que le joueur?
Ouais, clairement.
Joueur. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui, Sébastien Louis, est-ce que c'est pas le phénomène inverse qu'on est en train de voir dans le football? D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est voir que dans le milieu des années 90 sont apparus les noms des joueurs sur les maillots. C'était quand même presque comme si l'individuel était devenu plus fort que le collectif.
Tout à fait, parce que le football est un reflet de nos sociétés. Et donc, effectivement, dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, on a un triomphe du capitalisme et de l'individualisme à outrance. Donc forcément, ça s'est reflété sur noms des maillots, comme vous l'avez bien expliqué, qui ont été floqués au-dessus du numéro des joueurs, et par l'explosion des numéros. C'est-à-dire maintenant, on a des joueurs de 1 à 99. Et donc, on a aussi les contrats personnalisés. C'est-à-dire, un joueur qui revêt une tenue du PSG Nike va avoir peut-être des chaussures Adidas ou des chaussures d'un autre partenaire sportif important. Donc oui, effectivement. Mais les supporters ne tombent pas forcément là-dedans. Il faut faire attention, parce qu'il y a aussi toute une stratégie. Quand Neymar est acheté par le PSG 222 millions, il est acheté par le Qatar. Donc le Qatar qui investit sur ce club pour un projet géopolitique, géostratégique, donc de soft power. Et donc, à l'époque, j'étais en Indonésie l'année dernière, au moment du transfert de Neymar, je monte sur un mototaxi à Jakarta, et quand le mototaxi sait que je suis français, il me parle tout de suite de Neymar, et c'était le lendemain du transfert. Donc voilà, c'est un véritable impact, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il faut savoir, et notamment dans le marché asiatique, où les clubs, par exemple à Kuala Lumpur, il y a 3 semaines, dans un mall, il y avait une boutique du Liverpool FC. Il y avait une boutique du Liverpool FC qui vendait des produits quasiment au même prix qu'en Angleterre. Il faut savoir que le pouvoir d'achat est moins élevé en Malaisie. Mais
il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent. Donc effectivement, les clubs ont misé sur les joueurs là-dessus, mais les supporters, tous, hein, pas uniquement Red Star, ils sont attachés avant tout à l'institution. C'est ça qui compte. Le blason. Les joueurs, ils passent, les dirigeants, ils passent, les entraîneurs également, mais ce qui compte, c'est le club qui reste. Voilà.
Michael Tapiero, vous confirmez. Et par rapport, par exemple, prenons un autre sport, le rugby, quand on voit aujourd'hui des clubs comme Toulon, qui vont recruter énormément dans l'hémisphère sud, avec des joueurs qui ont quand même une envergure internationale, une visibilité.
Oui. Alors, souvent le comparatif est difficile pour une bonne et simple raison, c'est que le football est vraiment le sport planétaire, et c'est un sport relativement simple. Le rugby ne sera jamais simple, ne sera jamais planétaire. C'est vraiment un produit culturel. Alors, l'intérêt de tout cela, c'est que quand vous êtes supporter toulonnais, vous connaissez forcément la star sud-africaine qui va débarquer. Vous le connaissez depuis qu'il est junior presque. Donc, quelque part, c'est une sorte d'échange de bons procédés. Il y a une sorte d'affinité élective qui se crée. Lui va choisir Toulon parce que c'est méridional, ça va lui rappeler les plages de Durban, par exemple. Et puis, d'un autre côté, le supporter va se dire que, quelque part, la façon de jouer du rugby club toulonnais colle parfaitement avec tel joueur. Donc, il y a une association, entre guillemets, d'experts. Et c'est la grande différence, c'est que souvent, dans les stades de rugby, vous pouvez faire une différenciation, non pas entre les ultras et les autres, mais entre ceux qui comprennent à peu près le rugby et ceux qui ne le comprennent pas toujours, mais qui aiment bien le spectacle. Alors que dans le foot, c'est pas ça. Dans le foot, on sait qu'à la fin, celui qui a fait le tremble le plus de filets, c'est celui qui a gagné. D'accord? Donc, voilà pour la question du rugby. Maintenant, pour revenir au nom des joueurs, c'est vrai que souvent dans l'économie, et pas simplement dans l'économie du sport, mais certainement dans l'économie du sport, on a à peu près 20-25 ans de retard avec le format américain. Les sports américains sont complètement différents des sports européens. D'abord, on est en ligue fermée, alors qu'en Europe, on est en ligue ouverte. Mais surtout, on est dans les sports américains avec une culture historique du sport qui a remplacé nos généraux. Les États-Unis, c'est un pays relativement jeune. Les grandes stars du début du XXe siècle, ce sont les joueurs de baseball et les joueurs de foot américains. Alors que nous, on était en train de collectionner les images quand on était en école primaire avec les généraux et avec les grands hommes politiques. Donc ça n'a absolument rien à voir.
Mais les générations précédentes, sans doute.
En fait, je ne suis pas si jeune. Et derrière tout ça, on se rend compte que la personnification des joueurs et aussi le fait qu'ils aient un numéro propre, d'abord, ça caractérise le club, mais surtout, ça permet, en produits dérivés, hein, c'est un mot un peu barbare, mais ça s'appelle comme ça, de pouvoir vendre des maillots. On le voit aujourd'hui, regardez la Ligue 1, le Paris Saint-Germain sort 3 maillots par an. Un pour la maison, un pour l'extérieur et un pour la Champions League. D'accord? Donc on va se retrouver par rapport à ça. On le voit aussi au niveau des numéros. Regardez, Mbappé va changer son numéro parce qu'il se trouve que le numéro qu'il recherchait est libre. Donc on voit bien aussi que quelque part, ça permet de vendre de plus en plus de maillots, mais c'est rentré dans l'inconscient collectif. Vous regardez les jeunes aujourd'hui dans les stades de football, ils portent des maillots estampillés. Et il est très très rare qu'en 2018, ils aient par exemple le numéro de Mbappé 2017. Ils auront probablement le numéro qu'il aura cette année. Et avec le maillot de cette année. Donc c'est, une tendance contre laquelle on n'a rien à faire et qui fait que, de toutes les manières, c'est la façon de procéder pour pouvoir arriver le plus haut possible pour un club. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Don't quit.
on the scene, feeling better, better than ever, cause your umbrella, umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend the street is a room and you are a Camry, cause you're drama candy, the Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers, my chocolate with your vanilla,
The sun will come out.
After the Storm par Kalis Uchis, artiste américaine d'origine colombienne que vous pouviez entendre l'an dernier sur l'album de Gorillaz.
Le débat de midi, Didier Siamour.
Dernière ligne droite de ce débat consacré aux supporters, avec donc le lien surtout entre le supporter et le territoire, son club local, le club de sa ville peut-être. On a bien compris à travers ce que racontaient nos invités qu'on assiste aujourd'hui à une globalisation du sport, à une mondialisation. Et il y a un sociologue même qui parle de déterritorialisation de l'engouement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre le supporter et le territoire ? Michael Tapiro.
Le supporter se caractérisait par le fait qu'il y avait une distance minimale à parcourir pour aller au stade. D'accord. Aujourd'hui, on le voit dans les tournées d'été des grands clubs comme Manchester ou Paris Saint-Germain. On va avoir autant de fans à Singapour, à Hong Kong ou en Australie qu'en France et ailleurs. Il y a un club notamment qui est comme ça, c'est la Juventus de Turin. Vous avez des fans dans le monde entier. Ça veut dire que d'un côté, on déterritorialise l'engouement qu'on peut avoir pour un maillot et pour une équipe. La preuve, c'est que il est arrivé que le championnat mette des matchs à midi pour qu'on soit dans les horaires chinois. D'accord? D'un autre côté, eh bien, on va vers une tendance où le club, c'est plus un blason qu'un territoire. Encore une fois, pour revenir sur les franchises américaines, mais prochainement, on arrivera probablement à ce modèle-là. Lorsque vous avez un club à Los Angeles qui est racheté par un propriétaire qui a un stade à Atlanta, le club devient le club d'Atlanta et plus de Los Angeles. Donc, le plus important, c'est le blason.
C'est pas le nom de la ville.
C'est pas le nom de la ville. Il est clair que dans nos mentalités et dans notre façon de fonctionner en sport européen, on est à des années-lumière de tout ça. Et on le vivrait probablement très mal. Mais il faut s'y préparer parce que aujourd'hui, c'est le propriétaire qui décide.
Alors Vincent, chez Maisons, aujourd'hui, on voit bien le club de Red Star. Vous déjà, vous bloquez le fait qu'il faille aller jouer à Beauvais. Comment vous voyez cette évolution avec des équipes qui peuvent circuler un peu d'un endroit à l'autre ?
Bah nous justement, c'est un peu et je pense que c'est ce qui a été démontré, c'est qu'autour du Red Star, en tout cas, le fait de pouvoir jouer n'importe où et nulle part, ça marche pas concrètement. Les gens ne suivent pas. Et on parlait justement de territoire. Nous, c'est vrai que au-delà d'une ville, c'est vraiment, nous, on est attaché à quelque chose, à l'arène, au stade, à quelque chose qui est fort. Et je pense que nous, on est à des années-lumière, justement, des clubs qui peuvent se permettre d'avoir plein de fans dans le monde. Et nous, justement, je pense qu'il faut qu'on construise réellement à la base. Et ça, nous, aujourd'hui, on a même pas cette base, c'est-à-dire notre rente, notre maison, notre stade. Et c'est pour ça que nous, on martèle à ce point ce discours que le Red Star Sabreur, c'est qu'il est important réellement de déjà se construire et s'implanter dans notre propre maison. Sinon, on n'y arrivera pas et à coup sûr, on se cassera la figure. Donc, c'est pour ça que cette question de, on parlait de territoire, mais de stade notamment, d'implantation de sa maison, pour nous, elle est extrêmement importante et il faut à tout prix que, en tout cas, que nous, on retrouve ce stade. Sinon, on mourra, ça c'est clair.
Sébastien Louis, quand vous entendez ces propos là d'un fan, d'un supporter, vous dites que c'est déconnecté aujourd'hui de l'évolution du sport en général et du football en particulier.
Pas du tout. Je voudrais juste revenir sur le cas de la Juventus. La Juventus a commencé à avoir des supporters dans toute l'Italie déjà dès les années 30, suite à plusieurs victoires sportives, un petit peu comme l'OM, qui a commencé à avoir des supporters dans toute la France ou Saint-Etienne suite à une série de victoires ou un exploit sportif. Donc ça, ça a quand même existé depuis longtemps. Alors effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, le fait de détérioriser, ça ne fonctionnera pas. Aux États-Unis, ça peut fonctionner, au Mexique également. Hein. Il y a des clubs de Mexico City, Mexico DF, qui ont été transférés à Cancun parce qu'il y avait un potentiel touristique, économique, etc. En Angleterre, on a eu le cas de Wimbledon FC qui est caractéristique. L'actionnaire principal, il a décidé de déplacer dans une ville nouvelle à 100 km au nord-ouest de Londres, le club de Wimbledon à Milton Keynes. Il a changé d'ailleurs le nom du club, il l'a débaptisé, il l'a appelé Milton Keynes Don FC. Et les supporters ont décidé de ne pas suivre le club et ont refondé un club, un petit peu comme à Manchester avec United of Manchester. Ils ont refondé le Wimbledon FC. Et ils l'ont appelé AFC Wimbledon. Et donc, ils ont suivi le club et le club a connu une trajectoire sportive exceptionnelle. Donc voilà, non, véritablement, il y a un lien qui existe et qui est fort. Et même le Red Star, on le voit, le Red Star est devenu un peu un club de hipster. Je suis désolé pour l'expression qui va peut-être choquer certains, mais c'est ça.
Enfin, en tout cas, Vincent Chutemaisance qui est avec nous n'est pas du tout un hipster, hein, je vous rassure.
Non, je ne te parlais pas de lui, hein, je ne parle pas des supporters historiques, mais c'est devenu un club un petit peu, voilà, qui est devenu le club hype, un petit peu comme St. Pauli en Allemagne. Et donc voilà, il y a chacun repère, hein, la preuve, le sponsor maillot du Red Star, Vice News. Donc il y a il y a des marchés de niche et le Red Star constitue également un marché de niche pour certains.
Vous confirmez, Michael Tapiero?
Oui, je suis assez d'accord. Et enfin, pour revenir au grand championnat et à ceux qui ont besoin de remplir les stades, et pas seulement, on le voit bien aujourd'hui, il y a en parallèle de l'évolution du football et des enceintes sportives et des fans et des supporters, l'évolution des réseaux sociaux, du web et de la technologie. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce à Instagram, grâce à un site, on est capable de gérer et de générer un trafic de supporters dans le monde entier, ce qu'on n'était pas capable de faire avant, si ce n'est avec un timbre-poste. Et on est capable de le faire en temps réel. Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce qu'on voit bien que les recettes publicitaires se font aussi parmi ces canaux-là. Et aujourd'hui, les grands clubs misent énormément là-dessus. J'ai l'exemple d'un de mes étudiants, ben, qui est diplômé maintenant de l'école de la Sports Management School, qui a été recruté au Paris Saint-Germain dans un nouveau rôle, qui est manager des fans dans le monde entier. C'est quelque chose qui n'existait pas encore il y a quelques années. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a cette dématérialisation du club, ou du moins ce partage dans le monde entier, est quelque chose de quasi inexorable.
Merci à vous, merci à nos invités. Donc Michael Tapiero, président de la Sport Management School, Vincent Chutemaisance, donc directeur du collectif Red Star Bauer, en espérant que la situation évolue dans le sens où vous le souhaitez. Sébastien Louis, merci à vous en duplex depuis le Luxembourg et merci aux équipes techniques qui vous ont accueilli. On se retrouve lundi pour parler de vélo, de cycle, la petite reine des villes à laquelle les politiques accordent de plus en plus de place, mais n'en fait-on pas trop? Ne bascule-t-on pas dans la dictature de la petite reine, ou n'en fait-on pas assez? On en parle lundi, vous pouvez aller d'ici là sur la page de l'émission sur franceinter.fr.